ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Oui, bah, ah, j'avais le micro en mute. Bah, bonjour à toutes et à tous. Il est midi sur Radio Campus Orléans et c'est Fatine. Vous écoutez Écoute ta fac. Je suis avec Lucas et Mathéo. Salut, hello B6. Tu veux parler ?
Essayer de tenir la route durant cette émission, si je m'envole pas avant, mais ça va.
Tu t'envoleras pas, t'inquiète pas.
Je resterai là sur Terre.
Bah, aujourd'hui, on a un écoute à fac spécial. Hein. Bah, tout d'abord, on aura Lou Bouillon qui présente leur agenda. On aura Lucas avec son interview avec Julien qui est de retour sur l'antenne de Radio Campus.
De retour très rapidement.
Ouais. Yes. Bah, ça sera du coup une interview sur Papier Fougère.
Exactement, avec leur expo qu'ils ont en ce moment au 108.
Nice. On a aussi un PAD fait par Théo Team avec le rappeur Garusé. Il y aura aussi le jeu des nés et des morts animé par Alexia. Et uniquement pour aujourd'hui, Écoute à Vague continue pour une heure de plus pour accueillir Salim Jaferi pour parler de son spectacle Colonisation. Et du coup, ça sera présenté avec Mathéo.
Effectivement.
Et bien sûr, tout ça est accompagné de la musique. On a toujours de la musique sur Radio Campus Orléans 88.3. Tout de suite, c'est l'agenda du bouillon. C'est à vous.
Bonjour à tous. Je commence, Camille, excuse-moi. Oui, on est deux aujourd'hui pour présenter l'agenda. Et en fait, on va déjà parler de colonisation avant que Salim Jaferi vienne préciser un peu son spectacle. Je laisse Camille, du coup, vous présenter, on va dire, en gros, le spectacle de ce soir et demain.
Effectivement, bonjour à tous. Donc ce soir à 20h30, Le Bouillon accueillera Colonisation, donc qui vibrera au rythme de Colonisation, une performance fusionnant théâtre et art plastique, orchestrée par le talentueux Salim Jaferi. Inscrit dans le cadre du festival Met Meet Come Con, c'est dédié cette année aux artistes belges francophones. Ce spectacle aborde avec subtilité et humour le phénomène de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Donc la représentation de ce soir en collaboration avec la scène nationale d'Orléans est malheureusement complète. Cependant, chers auditeurs, quelques places précieuses subsistent pour la représentation de demain à 19h30. À l'attention des étudiants, la réservation demeure ouverte via la billetterie en ligne du Bouillon, disponible sur notre site internet lebouillon.fr. Même si l'événement est gratuit, pour les étudiants, il est nécessaire de réserver vos places, donc pensez-y bien. Et sachez également que le spectacle est également accessible au public extérieur au tarif de 10 euros via la billetterie en ligne de la scène nationale. Soyez avertis, le nombre de places restantes est inférieur à 10 places. Nous vous conseillons vivement de réserver en ligne dès maintenant pour garantir votre présence à cette expérience artistique exceptionnelle.
Donc oui, dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de places. On vous attend.
Oui, c'est tout.
Bah pour cette semaine, c'est tout. Ah, on peut aussi parler vite fait déjà de la semaine prochaine, puisqu'on va accueillir en fait une performance en partenariat avec le SWAPS. Mm-hmm. On a donc un spectacle qui s'appelle Jazz et Street Art, qui va mélanger du beatbox, de la culture urbaine, il va y avoir de la danse, des artistes, une chanteuse. Et tout ça, c'est donc en lien avec... On a une quinzaine d'étudiants qui vont venir danser. Mm-hmm. Une intervenante du STAPS donc, qui va chanter. Et puis donc des musiciens professionnels. Et ça sera gratuit pour tout le monde. Ça sera le jeudi 21 à 20h30. Donc vous pouvez déjà tous prendre vos places sur lebouillon.fr.
Ok, bah merci d'être venu, d'être passé avec nous.
Merci pour l'accueil.
Merci.
Comme chaque mardi.
Oui, à mardi prochain.
À mardi prochain.
Au revoir.
Au revoir. Merci. Et moi, je vous passe le titre Mein Kandamu de Sherry Bandora. Bonne écoute.
Secretaneta da criamo.
tout de suite, c'est l'interview de Théotime à propos du cancer de Garusé qui a déjà passé le jeudi dernier, 5 décembre. Je vous laisse écouter.
Ce soir à l'Astrolabe pour la première partie de Ziak. Donc ce soir, le 7 décembre 2023, Garusé, c'est un jeune rappeur tourangeau originaire de Bourges, de 25 ans, et il sort tout juste de ses balances. Alors déjà, première question, comment ça s'est passé et est-ce que t'es prêt pour ce soir?
Ça s'est carrément bien passé, on a pris le temps qu'il fallait, on a même eu un petit peu de rap, donc on est prêt pour donner le meilleur de nous-mêmes ce soir, c'est carré à fond.
Parfait. Alors, j'ai vu que tu avais eu pas mal de dates dans la région, à Bourges, à Orléans, à Tours. Est-ce que c'est important pour toi d'être ancré sur un territoire ou c'est aussi un petit côté chauvin?
Le chauvinisme chez moi, ça n'existe pas trop. Même si je suis attaché à d'où je viens, etc. Je suis juste attaché au fait de jouer, tout simplement. Donc, très sincèrement, je jouerai là où les conditions sont réunies. Parce que je pense que le live et le contact avec le public, il est inséparable de la qualité studio d'un album, quel qu'il soit, quoi. C'est important de jouer, donc j'ai envie de jouer partout. Et j'ai eu la chance de jouer dans la région pour l'instant. On a l'objectif de s'expandre, si on peut. Donc pour l'instant, c'est la région, on verra plus tard.
Et justement, tu t'es produit au Château d'Eau, à Blois, en première partie de Bébé Jacques, sur la scène Propulsion aussi, à Terre du Son. Comment ça s'était passé? Comment ça s'est déroulé pour toi, ces deux dates?
C'était des moments qui étaient vraiment magnifiques. Franchement, on ne s'attendait pas à autant d'amour de la part du public, d'un public qui ne nous attendait pas forcément. Enfin, je veux dire, il venait pas pour nous voir une première partie. Ne pas être en tête d'affiche d'un festival, c'est pas forcément un moment où les gens s'attendent à nous rencontrer, mais la surprise a été là, j'ai l'impression, pour les deux parties, pour le public, pour nous avec l'équipe. Donc c'était des moments qui étaient magnifiques. Ça s'est super bien passé, et puis on attend de voir le reste des concerts, mais ça risque d'être très cool, quoi.
Alors Garusé, tu chantes, tu kicks, et au niveau de ta musique, comment est-ce que tu pourrais la décrire pour nos auditeurs?
Bah, je dirais que c'est un mélange d'influence, un mélange de vision. J'aime énormément chanter et j'ai aussi énormément de plaisir à montrer ce que je peux faire en termes de technique vocale, en rappant et en termes de technicité dans les textes écrits. Donc j'essaye de mêler les deux. J'ai jamais été réfractaire à aucune manière de faire la musique du moment que elle est faite avec nuance et avec sérieux. Donc beaucoup de rap, beaucoup de chant, un mélange des deux que j'essaye d'être cohérent, que j'essaye de faire en sorte cohérent, et puis voilà.
Et ça t'est venu tôt ou est-ce que t'as commencé par le chant par exemple ou par le rap? Est-ce que, je sais pas, t'as suivi des cours de chant, des choses comme ça?
J'ai fait le conservatoire à Bourges où j'ai appris le théâtre et le chant. Et donc ça m'a très rapidement mis dans un truc où je me suis rendu compte que j'aimais me produire sur scène tout simplement déjà. Et à partir du moment où j'étais au lycée, j'ai commencé à me passionner pour le fait d'écrire du rap que j'écoutais depuis que j'étais petit. Je faisais ça avec mon meilleur pote Jules qui était au lycée avec moi. On a commencé à faire ça pour rigoler, on s'est enregistré, etc. Puis plus le temps passe, plus on essaye de rendre ça sérieux. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que ce qu'on n'essaye pas que de le faire, c'est qu'on le fait réellement. Et puis voilà un peu le parcours à ce niveau-là, quoi. Mais j'ai commencé par le chant, ouais.
Et justement, cette expérience au conservatoire par rapport au théâtre, ça t'aide quand tu fais de la scène, j'imagine?
Ouais, naturellement. Bah, en fait, j'ai continué à fond à faire du théâtre à côté de la musique parce que pour moi, c'est deux besoins que j'ai vraiment dans mon quotidien. Et du coup, j'en vis autant que de la musique à l'heure actuelle. Je suis comédien à côté. Donc, c'est sûr que les compétences que demande le théâtre ou même tourner devant une caméra pour du cinéma, des clips, en fait, c'est des compétences qu'on peut retrouver dans le live et la scène, et ça aide particulièrement.
Donc on est face à un artiste complet, hein, chant, rap, théâtre.
Complet, je suis pas sûr, mais...
Ah si, on peut dire ça. Pour revenir à ta musique, en écoutant tes sons, on ressent une ambiance assez particulière, assez planante, voire sombre, j'ai trouvé parfois, et plus kické à d'autres moments. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé, que ce soit sur la scène émergente New Wave, entre guillemets, ou plus mainstream?
Pour être particulièrement honnête, jusqu'à présent, la couleur de la musique que j'ai pu proposer avec Garuzet, elle a énormément été influencée par mon duo beatmaker-producteur, même trio, hein, Gesson, qui est juste Jules, parce qu'il a vraiment apporté aussi une touche de son propre univers. Justement, Jules, lui, est très inspiré par tout ce qui est New Wave, avec des Luther, avec des hoodies, etc. Enfin, je vais pas faire le listing de tous ces artistes pleins de talent. Moi, c'est autre chose, justement. J'écoute plus des tifs, etc. J'écoute énormément de musique autre, comme l'afrobeat avec les Burna Boy, etc. Donc, en fait, c'est un peu le mix de ces deux univers qu'a créé la musique qu'on a faite. Et c'est vrai qu'elle a un côté assez glacé, assez sombre. Et elle est très liée aussi au goût que possède Jules dans la création des titres qu'on a sortis, ouais.
D'accord. Et pour revenir sur ton année 2023, donc tu as sorti un EP qui s'appelle Amae, un freestyle aussi qui s'appelle 97. Et puis après, comme on l'a dit un peu plus tôt dans cette interview, tu as eu un live à Terre du Son, un autre à Château d'Eau. Tu t'es déjà produit à Orléans au Bouillon. Et on te retrouve ce soir à l'Astrolabe. Donc, court retour sur cette année, comment ça s'est passé entre tes productions musicales et tous ces lives?
Bah, c'était une année franchement de pur bonheur, parce que c'est une année où on s'est un peu rendu compte que les efforts qu'on avait donnés jusqu'à présent, ils pouvaient potentiellement payer. En tout cas, factuellement, ils payaient déjà, puisqu'ils nous ont permis de vivre ce qu'on a vécu cette année. Il y a énormément de gens qui n'ont pas cette opportunité-là, qui n'ont pas cette chance-là. Donc j'essaye de profiter pour eux. Ensuite, ça a été hyper intense parce que c'est plein de nouveautés qui se sont mises au même moment, des nouveaux concerts, des nouvelles rencontres, des nouveaux tournages. Et ouais, c'était une année super riche. Je sais pas quelle était la fin de ta question, mais oui, c'était une année super chargée et super belle, quoi.
Et est-ce que tu as retrouvé ça en fait, est-ce que c'était une première en 2023, ou est-ce que tu avais déjà retrouvé ça sur des années précédentes, où vraiment tu as ressenti à peu près les mêmes sensations?
Non, c'était différent, dans le sens où les années d'avant, on était quand même dans une construction de ce qu'on voulait proposer aux gens à terme, et donc on était beaucoup plus focalisé sur la musique qu'on voulait proposer, le fait d'essayer de faire de la bonne musique, tout simplement. Les concerts, on n'en a pas fait pendant des années autour de Garuzet. J'en avais fait il y a très longtemps, mais c'était une autre époque. Et donc ouais, non, il y a une grosse distinction que je peux faire en termes de sentiments sur l'année 2023 qui s'est écoulée et les années d'avant, c'est sûr.
Et pour revenir sur l'EP Amae, donc on retrouve 6 titres, un feat avec Carla Siméon et des prods réalisés par Juste Jules. Est-ce que tu peux nous parler de l'atmosphère globale de l'EP, du message, de ce que tu as voulu faire ressentir aux auditeurs?
Le premier truc que je pourrais dire sur Amae, c'est que c'est un projet qui s'est fait en famille. Il faut savoir que Juste Jules, du coup, qui était mon duo sur ce projet-là et sur le projet d'avant Nouvelle Fenêtre, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 3 ans et où on a physiquement créé notre propre studio pour pouvoir enregistrer nous-mêmes, faire les choses nous-mêmes et dépendre de personne. Donc c'était une aventure humaine qui était assez magnifique, parce que l'acte qu'on a posé de vivre ensemble nous a permis de faire cette musique. Carla, c'est une de mes meilleures amies, qui est artiste aussi à côté. Donc en fait, c'était une évidence pour nous de travailler ensemble pour cette EP et de travailler avec des gens qu'on connaissait et qu'on aimait déjà pour cette EP. Ce que je peux dire d'Amae, c'est que c'est un projet qui raconte le besoin de faire ce qu'on aime, essentiellement, le fait de pas faire de compromis pour faire ce qu'on aime, et le fait de le faire à fond, parce que énormément de gens, je pense, et je pense pas me tromper, font les choses en pensant à autre chose que juste factuellement faire ce qu'on aime, ils pensent à ce qu'ils pourraient avoir en faisant ce qu'ils aiment, se sécuriser, etc. C'était pas notre cas. On a fait cette EP dans des conditions assez spartiates, on avait tous les deux arrêté de travailler, on était incertains sur énormément de choses dans notre quotidien, on avait peu d'argent, mais on était sûr de quelque chose, c'était qu'on allait faire quelque chose de bien. Voilà ce qui transparaît de l'EP, si je devais en dire quelques mots.
Justement, cette conception maison, comme tu viens de nous dire, comment la confection de l'album s'est déroulée vraiment à proprement parler ? Est-ce que tu as fait que écrire pendant une certaine période, avec des prods, sans prods ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ?
La particularité de la création d'Amae, c'est que, comme je disais, j'habitais avec la personne avec qui j'ai fait l'EP. Donc c'était... en soi, concrètement, quelque chose de très difficile de pouvoir vous dire j'ai écrit, ensuite il a fait des prods, ensuite j'ai posé, c'était beaucoup plus fouillis que ça, il y avait une vraie recherche constante. Jules a créé énormément de productions pour l'EP, qu'on a un moment gardé, un moment jeté. Moi j'ai fait énormément de textes qu'on a un moment gardé, un moment jeté, et donc ça s'est créé petit à petit. On s'est fixé une deadline de sortie qui était en mars. Et en fait, les choix se sont faits aussi par les raisons d'urgence, de timeline. Et les choix se sont faits comme ça. Mais je veux dire, Jules a créé en même temps que moi, j'ai créé. J'ai écrit en même temps que Jules a prodé, etc. On a fait les prises de voix aussi avec parcimonie pendant une période assez étalée, quoi.
D'accord, ben merci beaucoup pour ces explications sur cette EP. Pour terminer, deux petites questions. Qu'est-ce que tu attends de la date de ce soir ? Est-ce que tu t'attends à avoir un public bouillant ? Est-ce que... Je sais pas, dis-moi en plus.
Bah, je m'attends à ce que les Orléanais fassent du feu pour Ziak. Je m'attends à ce qu'ils honorent... la réputation de l'Astrolab, qui est une grande salle, une grande smack en France, et voilà, je verrai ce qu'ils me donnent pour voir ce que je vais leur donner. Ce qui est sûr, c'est que moi je vais leur proposer le maximum au départ, et puis on verra ce qui se passe, mais j'ai confiance.
Trop bien. Et puis dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024?
La santé, le bonheur, le reste on l'achètera. Je rigole.
Belle réponse.
Non, je rigole. On va sortir quelque chose en 2024. Ça risque d'être en avril. Je vais éviter d'en dire plus pour l'instant parce qu'il y a énormément de créations en cours. Mais il va y avoir une petite pause de sortie en soi avant la mi-année 2024. Mais on travaille à fond sur un projet.
Trop bien, et ben on attendra ça avec impatience. Merci beaucoup Garusé, bon spectacle, bon concert, et puis bon courage à toi.
Merci à toi, merci à Radio Campus, merci à l'Astrolab, merci Orléans, gros bisous.
Et c'était l'interview de Théo Tim avec Garusé, et maintenant, juste après le jingle, je passe la main à Lucas pour nous présenter Papier Fougère avec Julien et Jourdain.
Écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Du coup, Jourdain et Julien, merci d'être à l'antenne de Radio Campus.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous inviter.
Et du coup, pour nous parler de votre exposition au 108, Papier Fougère.
Alors, Papier Fougère, c'est le nom de la sauce.
C'est le nom de l'association, mais vous venez représenter du coup Papier Fougère. Donc, quand c'est une association déjà montée en 2021 et qui a pour objectif de la promotion et la valorisation des arts plastiques et visuels. Mm-hmm. Donc, c'est ça en gros. Quand on cherche notamment sur Internet. Des informations sur cette association, on n'a pas grand-chose.
Et non.
elle a été en sommeil un temps donné, parce que si on doit refaire un peu, la genèse de Papier Fougère, ça a vraiment débuté quand j'ai eu l'opportunité d'avoir les clés de la prison avant qu'elle soit démolie. Et donc on a monté un pseudo-collectif, un groupe de copains. On était 10 pour le coup.
On a fait un livre d'artistes en collectif.
On a fait un livre d'artistes en collectif avec des photos de l'ancienne prison. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas renouveler l'opération. Le sujet, on le connaît pas, mais au moins on a un support.
En fait, on avait un sujet et ça n'a pas marché. Je sais pas si tu te souviens, en fait, on a été ensuite contacté par des gens de Montargis.
Ah oui,
de la caserne Gudin.
Il y a de l'actualité en ce moment sur la caserne Gudin.
Et du coup, ils voulaient pareil qu'on fasse le même travail d'immortalisation de la caserne avant qu'elle
soit démolie. Parce qu'ils avaient pris connaissance du travail qu'on avait fait sur la prison d'Orléans.
Et donc du coup, Jordan et moi, on s'est dit qu'on allait se monter en association pour faciliter un peu le travail derrière. Après, le projet n'a pas eu lieu. Les auditeurs orléanais savent un petit peu qu'on a eu des petits problèmes avec la préfète qui a été partie prenante en fait dans ce projet de démolition, qui était une ancienne salariée de chez Nexity. Nexity qui était le promoteur. Et du
coup, il y a encore de l'actualité aujourd'hui.
Et là, il y a encore des trucs aujourd'hui, je crois qu'il y a
Il y a des choses hier qui sont sorties dans l'actualité.
Ce projet-là, en fait, il est avorté pour le moment, mais peut-être qu'il reprendra derrière, peut-être qu'on retournera voir là-bas. Parce qu'en fait, il y avait impossibilité d'avoir les clés ou quoi que ce soit pour pouvoir rentrer dedans, puisque c'était gardienné, il y avait Nexity, c'était en ancien terrain militaire, donc c'était un petit peu compliqué. Déjà, une prison, c'est pas évident.
Oui, oui. Bah là, pour le coup, oui, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir les clés pour qu'on puisse visiter. Ça a été vraiment la grande opportunité de pouvoir tout visiter en dehors des visites organisées par la métropole. Donc là, on avait full access sur...
C'était un peu dangereux des fois.
Oui, mais bon.
Moi, je me souviens d'avoir un pied qui est passé à travers un faux plafond, le faux plafond au-dessus du gymnase. Si j'avais plus que le pied qui était passé, c'était quand même une chute de...
Mais globalement, c'est deux petites frayeurs.
Petite, ouais.
Mais globalement, c'était ces deux projets. Et puis après, nous, dans nos activités à côté, on a déjà eu l'occasion de faire des expositions par le biais d'une autre association dans lequel on fait un événement annuel et on propose pendant cet événement un petit encart d'exposition. Ouais. Donc, du coup, là, ça permet d'avoir un vrai support et puis d'être mobile, de pouvoir faire des expositions avec n'importe quel sujet dans n'importe quel endroit. On n'a pas de lieu fixe, on n'a pas de sujet fixe. On est vraiment ouvert à tout type de propositions d'exposition. Et nous, on peut se permettre d'être le support logistique, administratif, si vraiment il y a besoin.
Et puis c'est surtout qu'avec l'autre assos, on en avait un peu marre de faire des expos d'une journée. J'avoue que moi, une expo d'une journée, je trouve pas ça, c'est bien pour montrer un travail. Tu le montres à quelques personnes dans la journée, mais derrière, ça n'a pas le même impact que faire une semaine. D'ailleurs, une semaine, je trouve ça court. Après, on n'avait pas les moyens de prendre plus longtemps. Une bonne expo, normalement, c'est un mois. Un mois, tu as le temps de t'installer dans la ville, ça a le temps de faire du bouche à l'oreille. Et comme tout artiste, en fait, on espère aussi vendre des œuvres. Et vendre des œuvres sur une journée, c'est hyper short. Vendre des œuvres sur un mois, les gens ont le temps de mûrir ce qu'ils ont vu, éventuellement revenir et pouvoir.
Mais là, Papier Fougère a été créé, ça a dormi. On a eu l'opportunité, de s'installer au 108 à la salle du bol au premier étage pour une semaine. Je trouve que c'est déjà un bon départ. On a eu un petit peu de fréquentation sur le vernissage qui a eu lieu samedi dernier. Et donc, la fréquentation là, sur les deux derniers jours, dimanche et lundi.
Sur un dimanche, alors, on était ouvert tous les jours à partir de 14h jusqu'à samedi prochain. On a fait un vernissage correct. Un dimanche, c'est plus compliqué. Le dimanche, on ne tombe pas dans les habitudes d'être ouvert au 108. Mais on a quand même eu une quinzaine de personnes qui sont passées voir l'expo. Donc, c'est pas si mal. Surtout que c'est pas une salle qui a pignon sur rue. Et puis hier, on a eu une trentaine de personnes. Là, moi, je retourne ouvrir à 14h. Voilà, on ouvre toujours de 14h à 20h. Et on ferme l'exposition définitivement samedi soir. On sera ouvert de 14h à 22h sur un ternissage qui commencera à 20h avec un peu de musique. Et un concept un peu bring your own booze, quoi, parce qu'en fait, on a encore un peu de reste du vernissage, mais on va pas non plus régaler tout le monde gratuitement. Donc on est sur un mode un peu festif, on aura de la musique. Et puis, venez avec votre bouteille.
Et justement, en parlant de la salle, le bol au 108, est-ce que ça a été un choix qui a été direct ou alors c'était par un peu dépit sur les salles d'Orléans?
C'était une opportunité, on connaît la salle.
Un peu des deux.
Un peu des deux, mais on connaît la salle. On sait que c'était à taille humaine par rapport à l'exposition qu'on voulait. On connaît l'installation. Pour le coup, les artistes qu'on a invités pour la première exposition... Nous-mêmes faisons partie de les artistes et on a convié deux autres artistes qu'on connaît, photographes et illustrateurs.
Illustrateurs, les deux autres.
Pardon ? Oui, non, illustrateurs aussi, mais autant pour moi. Collage et linogravure, principalement.
Ouais. Et sérigraphie.
Et sérigraphie. Et du coup, ça permettait de faire un premier galop d'essai avec des gens qu'on connaît, un lieu qu'on connaît. Donc du coup, on ne prenait pas trop de risques pour l'occasion.
Puis après, il faut bien imaginer que quand on n'est pas galeriste, les prix d'accès des galeries, c'est... hors de prix.
Exactement.
Je trouve que... on n'a pas les moyens de prendre le 108 sur une semaine. Après, déjà pour une semaine, c'était assez correct. Là où on paye une semaine au 108, c'est à peu près une journée dans n'importe quelle autre galerie.
Oui, exactement.
Exactement. Après, il faut bien imaginer que quand on est artiste s'auto-exposé, artiste, souvent, ça crève un peu la gueule ouverte. Ça ne vend pas des masses d'œuvres, ça a envie de s'exposer. Et taper 1000 balles pour prendre une salle pour un mois, non. En vrai, non.
Après, c'est pas jouable. Enfin, on voilà, est peut-être là.
Il y a une économie de l'artistique qui est compliquée.
On est peut-être là pour un peu démocratiser l'exposition et de proposer des choses accessibles sur des lieux qui ne sont pas définis. Donc, disons qu'on n'a pas... On n'a pas vocation à faire que dans des lieux d'exposition et que dans des galeries. Ça peut être tout terrain, ça peut être des lieux un peu insolites ou à voir ce qui peut se proposer. On n'est pas fermé du tout, hein, et du coup, ça permet de faire où on veut, comme je disais.
Puis après, voilà, faut bien imaginer que nous, enfin voilà, toutes les œuvres sont à vendre, hein, dans l'expo. Après, je ne sais pas si c'est le lieu pour parler de cette problématique du prix de l'œuvre, mais. Il y a un moment, il faut imaginer que quand un artiste il vous vend une œuvre 30 euros, c'est souvent des tirages très, 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 très limités. Moi, m'entendre dire, quand je propose une photo à 30 euros, c'est des tirages limités à 12 exemplaires. Des gens qui me disent que c'est trop cher alors qu'ils sont prêts à mettre 25 balles pour aller acheter un poster qui a été tiré à 1 million d'exemplaires. Non, mais c'est pas le problème, la place de cinéma. Tu vois, ça fait partie de l'art. Mais d'acheter 25 balles un poster A4 qui a été tiré à 25 millions d'exemplaires à travers la Terre, je fais waouh ! Et moi, tu rajoutes 5 balles et t'as une pièce unique, quoi, tu vois. Donc, c'est pareil. Et puis, si on prend une salle d'expo à 1000 balles le mois, il faut que... Enfin, tu vois, t'imagines, moi, il faut que je vende 30 œuvres pour rentrer dans les frais de la location de la salle d'expo. Derrière, je mange comment ? Tu vois, et pareil, l'œuvre, il faut la tirer. Il y a un travail derrière, il y a un travail d'éditorialisation, il y a du temps qui est passé. Enfin, c'est le prix de l'œuvre. Alors, je suis d'accord hein, que l'art n'a de la valeur que ce qu'on est prêt à y mettre, mais il y a quand même un minimum à respecter. Enfin, tu vois, si tu me dis, ouais, ta photo, je l'achète 5 euros alors que c'est un 60-40, j'ai envie de te dire, tu peux aller faire un tour ailleurs. Quoi.
Après, tout dépend de la prétention, de la pratique de l'art, des gens qu'on expose. Moi, personnellement, qui ai exposé, c'est vraiment de l'amateur. Et donc, du coup, bon, y en a qui en vivent. Et ça, j'espère que ça puisse marcher pour ceux qui veulent en vivre. Après, il y a deux types.
Mais ce n'est pas parce que tu es amateur qu'il faut baisser les prix.
Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais après, il y a un impératif de vente ou il n'y a pas un impératif de vente.
Mais pareil, tu vois, même si tu es amateur, prendre une salle à 1000 balles pour un mois...
Ah oui, c'est pas possible.
Il y a des impératifs d'économie. Enfin, c'est comme quand on fait un concert. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que nous, on n'a pas de bar à vendre. Le seul truc qu'on vend quand on fait une expo...
C'est les œuvres.
C'est les œuvres.
Et est-ce que ça rentre en jeu quand vous préparez une exposition comme ça en disant faut déjà qu'on voit la rentabilité de ce qu'on va vendre ?
Non, en fait, là, surtout qu'en plus, on est sur une expo de nous-mêmes. Et donc, du coup, en fait...
C'est le plaisir de...
C'est aussi montrer des œuvres.
Enfin, montrer des œuvres.
Et en fait, toute la question, elle est là. Elle est comment, aujourd'hui, on arrive à exposer des artistes émergents ? Et est-ce que, politiquement, il n'y a pas un coup à jouer, même sur la ville d'Orléans ? Enfin, tu vois, la ville d'Orléans, c'est pas une ville d'art et d'acheteurs, en fait. Il y a très, très peu de galeries. Elles n'ont pas pignon sur rue.
Oui, à la différence, pour avoir visité d'autres villes où les galeries.
T'as des rues de galeries, hein.
Pousse à tous les coins de rue, c'est sûr.
Tu prends Tours, par exemple, il y a 5 ou 6 galeries les unes à côté des autres. Et du coup, ça crée une dynamique d'achat, en fait, et de sensibilisation des gens à l'achat de l'art, en fait. Alors, oui, l'achat de l'art, c'est du coup de cœur, mais il faut arrêter de dire à un artiste que ce qu'il vend, c'est trop cher, quoi.
Après,
c'est hyper blessant d'ailleurs.
Après, si on reste sur le sujet de la rentabilité, disons que sur une exposition telle que celle-ci, on ne fera pas de rentabilité, ça c'est sûr. Mais après, c'est le plaisir de pouvoir exposer, de pouvoir montrer de l'art, comme disait Julien. Et puis après, je pense que c'est les projets qui viendront plus tard qui permettront de développer.
On verra, ouais.
Voilà, tout à fait. Après, on sait que sur des types d'ouvrages papier, l'autre facette de papier fougère, autre que l'exposition, elle permet éventuellement de faire un peu de rentabilité. Mais nous, en tant qu'association, de toute façon, on n'en vivra pas, ça c'est sûr.
Non.
Mais ça permet de faire vivre l'association et de faire développer... des projets.
Faut voir un peu comme un tremplin, en fait.
Un tremplin pour certains. Ça se trouve, il y a des gens sur Orléans qui se disent j'ai plein de projets de livres, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment me débrouiller, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de support. Ça peut éventuellement être le moyen d'aider et de propulser.
Parce que du coup, là, Papier Fougère, c'est, vous êtes les deux seuls dedans. Ouais. Et est-ce que ça reste quelque chose d'ouvert ? ou ça sera un collectif que pour vous deux? Bah, non, mais c'est une question importante parce que
l'association manière d'aborder l'association, et je pense qu'en fait Jordan et moi j'ai pas envie d'ouvrir à d'autres personnes.
Après oui,
l'éditorialiser reste... juste Jordan et moi, on choisit qui on a envie de faire.
Voilà, c'est un petit support de nos envies. Voilà, ça a été le déclencheur avec le livre sur la prison, comme on a dit. Donc ça a dormi un petit peu. Sachant que ça a dormi un petit peu quand même, parce que les prisons, les photos de la prison, on les a fait en 2018.
Fin 2018, début 2019. Voilà. On a édité le livre en 2020.
Donc ça a dormi un longtemps. Le projet était dans les cartons.
En 2021,
hein. Tout est fait, mais on a lancé. J'ai même souvenir d'avoir distribué le 24 des livres, des gens, des commandes sur le parking, des mails.
Ouais, c'était en plein Covid.
En plein froid. Et donc du coup, ça a permis aussi d'avoir plein mal d'échanges et de discussions avec des gens. Et de nouer du contact avec des personnes intéressées.
Oui, il y a des questions qui se posent de faire une seconde édition parce qu'on nous demande régulièrement des exemples.
Voilà, donc à voir, il faut qu'on puisse mesurer l'intérêt.
Après, ça coûte cher l'édition, pareil.
Voilà, tout à fait. Ouais. Après, il faut pouvoir éditer en grand nombre pour pouvoir amortir le coût de fabrication et de pouvoir le vendre, et de façon à ne pas le vendre trop cher non plus, parce que si on commence à vendre un livre 70 euros.
Après, c'est un livre d'art, hein, donc.
Voilà. Après, tout dépend des ambitions, tout dépend de la vocation, savoir à quel niveau se jauger. Nous, moi, j'aurais plus tendance à faire quelque chose de plus populaire, entre guillemets. Après tout dépend des objets, tout dépend des...
catalogue d'expo, on est tout de suite à 50 balles.
Voilà, non, mais voilà. Après, si vraiment il y a des sujets qui prêtent à faire des ouvrages beaucoup plus qualitatifs, et parce que ça met en valeur le sujet, pourquoi pas. Nous, on aime bien, ça permet d'avoir des supports pour pouvoir faire des ouvrages vraiment élégant, et ça on apprécie d'avoir quelque chose de un beau produit.
Donc ça, c'est dans les cartons, peut-être une potentielle deuxième.
Tout dépendra si on arrive à choper des subs, si on arrive à choper de l'argent. Enfin,
pour revenir un peu sur l'exposition.
Yes.
Donc il y a deux autres artistes qui ne sont pas présents. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus en savoir un peu plus sur eux?
Moi, je peux les présenter.
Yeah. Bah, Pierre Uprecht pour commencer.
Collage et gravure.
Voilà,
gravure.
Tout à fait.
Rupi, dit Pierre Ruprecht, mec que moi je connais depuis plus de 10 ans.
Exactement,
qui a fait les SAD d'Orléans, qui était plutôt au départ, s'orientait plutôt sur la typographie, et qui mettait en forme des textes, des poèmes ou des citations avec des espèces de typos imbriqués. Vous pouvez retrouver ces livres d'artistes d'ailleurs à l'expo.
Ils sont en consultation libre. Et en vente.
Parallèlement à ça, en 2012, on est devenus tous les deux DJ en même temps au sein de l'autre asso. Et il a commencé à bien aimer proposer des choses avec la poésie des autres. C'est un peu ça, une mixtape, hein. C'est comment exprimer ses sentiments avec la poésie de quelqu'un d'autre. Et donc un mix, c'est ça. Et il s'est découvert une passion pour le collage, passion qui était déjà un peu là, puisque quand on fait du sampling, quand on fait de la musique, c'est déjà un peu du collage. C'est encore, c'est approfondir, dire
c'est
ses
pas
propres
le même
sentiments avec
c'est
la
pas
musique
le même support,
d'autre.
Mais
et donc du coup, il s'est orienté vers le collage. Il a toujours eu une appétence aussi pour la gravure. Il a quand même un très joli trait d'illustrateur.
Ouais.
Faut bien lui reconnaître ça, Rupi. Voilà, donc du coup, il propose des collages un peu post-apocalyptiques, un peu burlesques, très teinté de ses attentes politiques, en fait. Hein, voilà, on sent qu'il y a un certain questionnement sur l'avenir du monde. Questionnement qu'on retrouve de manière beaucoup plus franche dans les linogravures et dans les qu'il nous a proposé. Puisque là vraiment il utilise sa propre poésie et son propre trait pour faire des dessins, des illustrations, beaucoup de rouge, de noir, voilà, c'est engagé. Ça veut bien dire qu'il y a un petit, il y a des oppressions à faire tomber, voilà. Ensuite Laurent, on est sur la sérigraphie essentiellement et un tout petit peu de linogravure.
C'est poétique.
Laurent, c'est plus abstrait. Il y a des macules qui sont des tests, et donc du coup des tests de ces sérigraphies qui sont en exemplaires uniques. Après, il a des sérigraphies à 5-6 exemplaires. Moi, j'ai beaucoup aimé ces dernières variations de plantes où en fait, il a fini par arrêter d'utiliser des couleurs. Il prend des papiers colorés avec quelques couleurs, et ensuite, il fait aussi des passages juste avec des vernis mat ou des vernis satin et des vernis brillants. Et donc du coup, c'est beaucoup plus subtil à voir sur site que quand c'est pris en photo.
Elle est très jolie là, il y en a une sur papier noir avec un vernis. Et le rendu est assez intéressant. Ouais. Ça peut faire une belle œuvre.
Ça fait des très belles textures et c'est ça qui est très intéressant. Mais par contre, il faut les voir en vrai parce qu'elles sont disponibles sur son site aussi. Et bah, malheureusement, numériquement, les vernis sélectifs, on les voit pas top, quoi.
Exactement.
Et après, il a aussi de la linogravure. Et là, il s'oriente vers quelque chose de plus chargé, toujours dans l'abstraction, mais plus chargé.
On est sur les mêmes motifs, mais non, différentes variations.
Il y a le dernier mur qui partage avec toi.
Très bien, bleu clin,
bleu de Prusse plutôt.
Bleu de Prusse.
Ouais.
D'accord. Soyons précis.
Oui. Et du coup, qui est plus découpé, plus chargé, un peu vitrail. Voilà. Ensuite, il y a Jordan. Je vais laisser Jordan présenter son travail.
Photographe amateur depuis de nombreuses années. Je suis très orienté un peu architecture, géométrie. Donc ça va être plutôt des clichés assez cadrés géométriquement, assez calés. Et le côté abstrait de travers, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Et puis voilà, quoi. C'est là, pour le coup, toutes les photos qui sont exposées sont issues d'un voyage aux Pays-Bas. D'ailleurs, boîtier de Julien que j'ai emprunté pour l'occasion. Travail participatif. Et puis, et après, de temps à autre, je poste pas mal. Mais du coup, le temps me manque. Le matériel est assez volumineux. Donc, du coup, très photo, téléphone. Et puis...
On fait des belles choses aussi au téléphone.
Pardon ?
On peut faire des belles
choses. Oui, on peut faire des belles photos, mais c'est l'outil qui est facile. Et donc, du coup, je poste souvent des jolies photos sur Instagram. Après, à chacun d'apprécier... à sa juste valeur.
C'est parfois le tirage qui est plus compliqué.
C'est parfois le tirage qui est plus compliqué parce que ça reste quand même une étape de, quand on n'a pas l'habitude de proposer ses photos à des gens lambda. Et ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, de aussi avoir un retour sur ces photos-là, de savoir qu'il y a des gens qui apprécient. Voilà, c'est agréable. Je suis pas là non plus. Je profite de l'exposition pour pouvoir proposer mes photos. Après, elles sont là pour comment dire. J'ai peut-être pas la même ambition d'un artiste qui vient là aussi pour un peu vivre de ses œuvres. Mais c'est agréable d'avoir des gens. J'ai eu plusieurs retours des gens qui appréciaient les photos.
Je sais pas forcément en vivre, mais j'aimerais bien rembourser les tirages.
Si on peut faire ça, ouais.
C'est un peu le minimum.
Et enfin, Julien.
Ouais, moi je propose I Was Here Too, la suite de I Was Here. Donc c'est des photos toujours sur le même concept, des gens qui se prennent en selfie dans des lieux touristiques du Japon, des lieux du tourisme intérieur plus que du tourisme international. Alors forcément, il y a des endroits où ça s'entrecroise. Hein. On va pas se mentir. Hein. Par exemple, un Asakusa à Tokyo, c'est un endroit où, qui est à la fois tourisme intérieur parce que c'est un haut lieu de prière et un grand temple Shinto du Japon, qui est aussi un temple bouddhiste, enfin voilà, avec les grands dieux courroucés qu'on voit à l'entrée, qui est aussi international. Après, j'ai des endroits où je suis allé du côté de Miyajima, du côté de Matsushima. Là, on est dans des endroits plus discrets, plus secrets, enfin plus intrinsèques au Japon lui-même. D'ailleurs, des endroits où, quand j'y suis allé dans le train, j'étais le seul blanc aux yeux bleus et j'avais des gens qui me regardaient en disant, mais qu'est-ce qu'il fout là, ici, celui-là, quoi.
Il s'est perdu.
Il s'est un peu perdu. Donc voilà, c'est des gens qui se prennent en selfie. Moi, j'ai pris des gens qui s'auto-prennent en selfie. Donc j'essaie de suspendre le moment où ils posent pour eux-mêmes et de dessiner un peu le portrait en creux du Japon. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les détails dans la photo. Qu'est-ce qui pouvait être intéressant à cet endroit-là? Qu'est-ce qui peut amener les gens à se prendre en selfie à cet endroit-là?
Ouais. C'est assez intéressant, le contraste entre la technologie et le côté traditionnel et culturel du Japon. Et du coup, de voir ces gens-là plutôt discrets et avoir un espèce de moment de narcissisme, c'est intéressant d'avoir cette différence entre les deux.
Et ça, c'est très français comme approche du contraste. Moi, qui ai passé pas mal de temps, en fait, je dirais plutôt que c'est une sorte de syncrétisme et de symbiose. Vraiment, il y a vraiment en fait, il n'y a pas du tout de dichotomie entre tradition et modernité au Japon. Il y a vraiment un
ensemble.
Un ensemble, ouais. Voilà, donc je propose ça. Puis c'est à peu près tout ce que j'ai à proposer.
Et sûrement une suite.
Il y aura sûrement une suite, ouais. Après, c'est pas gagné d'aller au Japon en ce moment. C'est un peu cher, mais oui, il y aura une suite à I Was Here. Puis après, j'ai d'autres projets que vous pouvez voir sur mon site web, julienweiss.fr. J'ai un shop aussi, shop.julienweiss.fr, où il y a d'autres œuvres qui sont disponibles, notamment mes tirages de la prison. Moi, je propose tout limité à 12 exemplaires, certains en exemplaires uniques. Voilà, il suffit de passer commande. Et puis après, j'ai aussi un travail que je suis en train de sortir sur le cyclisme et le Tour de France et les victoires de sprinteurs. Voilà. Un truc que j'aime bien là-dedans aussi. Et après, moi, je suis plutôt un photographe de l'humain et de l'instantanéité, une sorte de captation d'un moment. J'aime
le petit prince de la petite reine.
Le petit prince de la petite reine, ce serait drôle.
Et ben, merci beaucoup d'être passé.
Merci.
Je rappelle pour l'exposition que c'est jusqu'au 16 décembre. Le ternissage, c'est de 20h à 22h avec un peu de musique, etc. Vous pouvez passer toute la semaine, enfin tout le reste de la semaine, même s'il reste quand même quelques jours pour aller découvrir cette super info.
Cinq jours,
c'est bien pour aller visiter. Si vous n'avez rien l'après-midi, il faut foncer à aller voir cette exposition.
Ouais. On ouvre à 14h.
À 14h, jusqu'à
20h.
Jusqu'à 20h. Et toutes les informations ou pour suivre le travail de Papier Fougère, c'est sur Instagram, @papier.fougère.
Et sur Facebook aussi.
Et sur Facebook aussi.
On a les deux pages.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci. Et nous, on continue avec un tout petit titre contemplative de Nick Fury of La Caution. Pour le jeu des nés et des morts, on est le 11 décembre. Qui sont le 11
on le est 12.
Le 12. Oh, on est le 12, 12 décembre.
Tu m'as fait peur. Oui.
Je me suis dit, c'est pas les bons.
C'est pas les bons que j'ai fait.
Qui sont nos nés et morts?
Alors déjà en plateau, on peut rappeler qu'on a Alexia, ah oui, Mathéo qui nous regarde, et on a Julien qui reste pour ce comeback du mort et des naissances du jour, et il y a moi.
Julien pour tous les éclater.
Mais t'as oublié.
Et on a Danae. Salut Danae.
J'ai dit Mathéo alors qu'il a aucun ni micro ni casque, et Danae qui a tout. Et... Ah oui, il m'entend. Si, il m'entend. Parce que je
suis d'à côté, on a aussi Danae.
Je suis pas sourd à ce point-là.
Bonjour Danae.
Bonjour. Eh ben, je vous propose qu'on commence avec les naissances.
Yes. Ok.
On commence par les trucs un peu plus sympas.
Ok.
Alors, on cherche un peintre, graveur, expressionniste norvégien, né le 12 décembre 1863 à Adalsbruck, en Norvège, et mort le 23 janvier 1944 à Oslo. Il est a posteriori considéré comme le pionnier... J'arrive pas.
Le pionnier.
J'ai buté sur plein de mots en trois phrases.
Pionnier
de l'expressionnisme dans la peinture.
Klimt.
Non.
Munch.
Oui.
Ah oui, Munch. J'ai confondu.
J'ai même pas eu le temps de reprendre mon souffle et de reprendre. C'est ça. Donc,
c'est Munch ou Munch.
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 Moi, j'aurais dit Munch. Et donc, son œuvre.
Le cri.
Je le. Ouais.
Faut se taire.
Ça, c'était plus tard.
Bon, pardon.
Mais bon, c'est pas grave. Non, j'allais dire que son œuvre connaît le succès dans les pays nordiques seulement à partir de 1909, grâce à la grande exposition rétrospective organisée par son ami Jap Nielsen. Et un autre, dont je ne dirai pas le nom.
Un autre imprononçable.
Directeur de la Galerie nationale d'Oslo, voilà.
Ah oui, voilà.
Ses techniques de prédilection sont essentiellement la peinture et la tempéra sur carton. Mmh. Il est aussi un pionnier de l'art accessible à tous, un art dévoilé, montré et non caché dans les rues, les espaces publics et dans les divers lieux de nature.
Ouais,
et...
il s'opposait pas mal à Walter Benjamin sur cette notion de l'art doit être caché.
Et donc, bien sûr, parmi ses œuvres les plus connues, le cri. Tout à fait. Qui est peut-être moi le seul tableau que je suis capable de citer.
Et c'est tout petit, hein, le cri. Hein.
C'est vrai ?
Ouais, ça
c'est
fait genre 15 par 20.
C'est un petit cri.
Ouais.
Ah. Ok. Okay. Pour terminer sur Edouard
Munch.
Munch. La ville d'Oslo construit quelques années après sa mort, en son honneur, le musée que j'avais appelé... pour pas donner son nom. Okay. Inauguré en 63 et son effigie apparaît sur les billets de 1000 couronnes norvégiennes.
Ah ouais.
Ouais.
Ah quand même.
Ah ouais quand même. Voilà, on passe à une autre naissance. On cherche maintenant une chanteuse, compositrice, actrice, animatrice américaine, née le 12 décembre 1940 à East Orange dans le New Jersey, toujours okay. En vie. Elle est surtout connue
alors,
comme.
Bon anniversaire.
Et donc bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Ça lui fait donc 83 ans.
Voilà. Et toujours en forme, hein. Elle tweet et tout. Hein.
Elle tweet.
Voilà.
Elisabeth Taylor ?
Non. Mais Elisabeth Taylor,
elle est morte.
Pas en vie.
Elle est morte. Oh, quoique, on sait jamais. Hein.
Tu confonds avec Liza Minnelli qui est encore.
Ah
en
oui,
vie.
C'est ça.
C'est ça ?
Oui, je comprends.
Je sais pas si elle tweet par contre.
Non, mais elles ont toujours eu plein de maris.
Et par contre, il y a un compte Twitter qui dit que Liza Minnelli a survécu à et toutes les choses qui se passent. En fait.
Ok.
Voilà. Notamment le mandat très très court de l'ancienne première ministre britannique.
Ah oui.
La salade aussi avait gagné contre elle d'ailleurs.
C'est vrai.
Donc c'est, je rappelle qu'on cherche une chanteuse, compositrice, actrice américaine. Elle est surtout connue comme interprète de chansons écrites par Burt Bacharach et Al David, avec lesquels elle a connu de grands succès dans les années 60. On compte parmi ses plus grandes chansons, Don't Make Me Over, Walk On By, I Say A Little Prayer, Do You Know The Way To San Jose?
Ah ouais, est-ce que tu sais comment aller à San Jose?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est la chanteuse ayant vendu le plus de disques aux États-Unis en 64, 66, 70 et 71.
Dolly Parton?
Non.
C'est ce que j'allais dire.
Et non, et non, et non, et non. Après une quasi décennie en demi-teinte, elle rejoint Clive Davis chez Arista Records en 79 et opère un retour retentissant avec son titre I'll Never Love This Way Again.
Ah ouais, il n'y aura plus à San Jose du coup.
Puis I'll Never Love This Way Again in San Jose. Puis en 1982 avec Heartbreaker. Ah ouais. En 85 avec That's What Friends Are For, qu'elle chante avec Gladys Knight, Elton John et Stevie Wonder. 6 fois lauréate d'un Grammy Award, elle a classé 80 titres au Billboard Top 100 et vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier. Elle est souvent considérée comme la première pop star afro-américaine.
Aretha Franklin ?
Elle est morte, non ?
Ah, ouais.
Est une des chanteuses noires les plus importantes des années 60 avec Diana Ross et Aretha Franklin. Sa cousine... la chanteuse américaine Whitney Houston la cite d'ailleurs parmi ses principales influences. Non ?
Non.
Vous ne l'avez pas ?
Non.
Il s'agit...
Non.
Non ? Il s'agissait de Dionne Warwick.
Je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas ?
Non.
Ok.
Warwick, moi je connais le personnage de science-fiction.
Oui, c'est de...
Dans les Marvel ?
Warwick ?
Oui, il y a... Et puis après, il y avait Warwick, le petit nain, enfin, la personne de petite taille informaticienne dans une série des années 80.
Mais c'est ça ? Mais oui !
Voilà.
Mais,
mais totalement.
Comment elle s'appelle cette série ?
Warwick, le magicien.
Le magicien ?
Ouais.
Il n'y a pas une grosse machine à laver dans
si.
Le générique ?
Si.
Ah ouais, ça vient de me rappeler un truc.
Les souvenirs.
Ouais.
Désolé.
Ah, faut que je regarde ça, mais plusieurs fois j'y ai repensé.
Non, il faut
pas. Mais si.
Non.
Ah, j'étais fan.
Ah, mais ça a très très mal vieilli.
Ah, bah,
plus que MacGyver. Hein.
Plus que Sliders, les mondes
ouais,
parallèles.
Plus que Sliders.
Ok. Plus sérieusement.
D'accord.
Mort. Plus fier. Ah, c'est un recto verso.
Ah. 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 La fiche recto verso.
Voilà. Alors, on cherche. Je me suis dit, bah, c'est pas ça. Parce qu'en fait, nous cherchons un acteur britannique né le 12 décembre 49 à Caterham, dans le Surrey. Et ensuite, mort. Ah oui. Mais il n'est pas mort.
Okay. Donc, il est né en 49 dans le Surrey, il est britannique.
Il est britannique, il est né d'un père garagiste et d'une mère infirmière. Il suit des études avec l'intention de devenir journaliste, mais il n'obtient pas les diplômes nécessaires et s'installe en France pour écrire. Il retourne finalement en Angleterre et, sur les conseils d'une petite amie, suit des cours d'acteur à la Guildford School of Acting. Il y trouve sa vocation d'acteur et commence donc sa carrière de comédien. En 1980, il décroche le rôle du Hobbit Sam Gamgee dans l'adaptation radiophonique du Seigneur des Anneaux sur la BBC.
Ouais.
Personnage underrated quand même.
Ouais.
Sam. Sa carrière cinématographique démarre dans les années 90, mais elle ne prend vraiment une dimension internationale qu'au début de la décennie suivante. En 2003, il obtient le rôle de Victor, le chef des vampires de la saga Underworld.
Oh là 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 là.
Et signe une interprétation remarquée d'un rocker déjanté sur le retour dans Love Actually de Richard Curtis,
oh là là,
qu'il retrouve en 2009 pour la comédie Good Morning England, The Boat That Rocked.
C'est celui qui joue le vieux rocker dans le bateau dans Good Morning
dans
England.
Dans laquelle il interprète le patron d'une radio pirate qui émet depuis un bateau au large de la côte anglaise.
Je vois sa gueule, mais oui, j'ai pas le nom.
Ouais, hein.
Ah, c'est impossible, j'aurais pas le nom.
Il rejoue aussi pour Richard Curtis dans Il était temps, que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui est pas si mal. Parmi ses autres films, on peut citer H2G2, le guide du voyageur galactique.
Inspector Galactic Guy.
Hot Fuzz. Film incroyable. Le dernier
peu. H2G2, incroyable aussi.
Je ne l'ai pas vu, moi.
Sous-estimé, mais incroyable. Il
faut que je le vois, mais ça fait longtemps que je
le vois. Bijou d'humour anglais. Hein.
Le dernier pub avant la fin du monde.
Bah oui, oui. Hein,
mais... Edgar Wright, toujours. Et plus récemment, Pokémon Détective Pikachu.
Ah, j'ai pas vu Pokémon Détective Pikachu.
Moi non plus, mais il a l'air marrant.
Tu vois, ça a l'air très bien.
Voilà, personne n'a son nom.
Non, j'ai okay, pas
de je vais arrêter de faire ce jeu parce qu'à chaque fois personne ne trouve.
J'en ai trouvé, hein.
Oui, oui, c'est vrai. Mais parce que quand t'es pas là, c'est pas pareil.
Mais c'est pas grave, ça fait de la culture pour tout le monde.
Alors, il s'agit de Bill Nighy.
Comment tu dis?
Bill
Nighy,
qui est incroyable, incroyable, ah oui, dans Good Morning England et dans Love Actually aussi d'ailleurs, très drôle. On cherche. Alors, je pense que ça va être super facile.
Ok.
Là, je pense qu'on va être sur du super facile.
On lui souhaite un joyeux anniversaire.
Bon anniversaire
à Bill Nighy.
Oui, à lui aussi. Et bon anniversaire à notre prochaine concurrente, une actrice américaine née le 12 décembre 70 à Cairo dans l'État de New York. Donc,
53 ans.
Ouais. Elle commence en tant qu'enfant mannequin dans des magazines et des publicités avant de faire ses débuts d'actrice.
Ça pourrait être Andy McDowell, ça.
Elle n'est pas née en 70, Andy McDowell. Elle est plus vieille, je pense.
Ah ouais?
Ah, je pense.
D'accord.
Je pense. Donc avant de faire ses débuts d'actrice à 12 ans dans un petit rôle dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone qui sort en 84
avec Robert De Niro.
Grâce à sa prestation, elle est choisie immédiatement par Dario Argento pour tenir le rôle principal de Phenomena en 85. Mais c'est surtout son interprétation de Sarah Williams dans Labyrinthe en 86 aux côtés de David Bowie qui lui apportera la célébrité à 15 ans. Tu vois qui c'est?
Ouais, ouais.
Ouais.
Mais je pense que je l'imagine plus jeune, donc je vais essayer de continuer.
Elle met temporairement sa carrière d'actrice en pause pour étudier la littérature anglaise à Yale, puis le théâtre à Stanford,
okay,
tranquille, avant de revenir au cinéma. Elle connaît des échecs avec Hotspot, Une place à prendre, Les aventures de Rock Tear. D'amour et d'ombre ou encore Les hommes de l'ombre, avant d'être finalement découverte, hein, y a des guillemets, découverte, à 30 ans par les critiques pour ses rôles dans Dark City et surtout...
C'est Jennifer Connelly.
Ah! Parce que là, j'allais dire Requiem for a Dream.
Bah, c'est Jennifer
Donc je
Connelly.
Me suis dit, c'est maintenant. C'était ma maman.
C'est avec Rock Tear que j'ai...
Voilà. Pour terminer... Tu l'as pensé plus jeune.
Et elle joue dans le transpersonnage aussi, dernièrement.
Et bien, bah, si on finit, c'est
la
ça.
La série ou le...
La série.
La série. Okay.
C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Alors d'abord, en 2002, elle remporte quand même l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de l'épouse de John Forbes Nash dans Un homme d'exception.
Ouais.
Et plus récemment, elle a joué dans Top Gun Maverick.
Tout à fait.
Alita Battle Angel. Et entre 2020 et 2022, Snowpiercer, la série adaptée du film du même nom.
Par contre, elle a un rôle plus discret dans le Hulk avec Edward Norton.
Mais elle joue pas dans le Hulk avec Edward Norton. Elle joue dans l'autre Hulk.
Ah d'accord, mais de toute façon les deux sont.
C'est Liv Tyler qui joue dans le Hulk avec Edward Norton.
Les deux sont à oublier de tout.
Ouais. Oublié, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et c'était bien Jennifer Connelly. Encore un point pour Julien. Est-ce une surprise ? Non.
On lui souhaite un bon anniversaire.
On lui souhaite un bon
et anniversaire. Bon anniversaire Jennifer Connelly. Maintenant on va souhaiter des anniversaires de mort.
Ah, ah un bon décès.
Fun, 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 fun. On cherche un romancier britannique. Né en 19 octobre 1931 à Poole et mort le 12 décembre 2020 à Truro, en Cornouailles. Très beau. Très beau.
Il est mort du Covid, lui.
Avec la nationalité irlandaise, peut-être. Âgé, quand même, aussi. Hein.
Ah oui, du coup.
Cornouailles, Truro, très, très joli.
Ça a l'air joli, la Cornouailles.
Très, très beau. Dans les années 50 et 60, il a travaillé pour le MI5, la MI6, et a commencé à écrire des romans sous un pseudonyme. Son troisième roman, L'espion qui venait du froid, paru en 63, est devenu un best-seller international.
Bah, c'est Ian Fleming ?
Non. Eh ben non.
Ok, c'est pas Ian Fleming.
Non. Moi aussi, quand j'ai vu L'espion qui venait du froid, je me suis dit...
Je pensais que c'était un James Bond, Ian Fleming.
Non, mais il est mort en 2020 seulement, cet homme.
C'est un écrivain ?
C'est un écrivain britannique.
John le Carré.
Ouais, exactement. Donc, ce n'était pas Ian Fleming. Donc, il remporte...
Parce que Ian Fleming, il était passionné d'ornithologie. C'est pour ça qu'il a appelé James Bond, parce que James Bond, c'était un ornithologue.
Mais on
c'est
parle de John le Carré, là. On ne parle pas de James Bond. Je sais que tu as envie de montrer ta science.
C'est un ancien agent secret, John le Carré.
Mais c'est ça. Et donc, pour son roman L'espion qui venait du froid, il a obtenu le prix Edgar Allan Poe en 65. Il écrit surtout des romans d'espionnage, donc beaucoup ont été adaptés au cinéma. Notamment, MI5 demande protection. J'adore ce nom. MI5 demande protection. La Maison Russie, le Tailleur de Panama, mais aussi à la télévision avec The Night Manager, adapté en 2016, que je n'ai pas vu mais que j'aimerais beaucoup voir avec Tommy Dolson, je crois. Je crois.
Oui, je crois.
Enfin, dernier personnage, pas des moindres, hein. Pas ouf. J'ai même pas son année. J'ai oublié de noter son année de naissance. Alors, il est né.
Ok,
il est né.
Et il est mort.
Un jour, un 12 décembre.
Et il a vécu.
D'accord, on dit qu'il est né un 12 décembre.
Il est mort un 12 décembre.
Ah, ok.
Il est mort un 12 décembre 2007, je crois.
Ah, t'as même pas noté son
J'ai oublié.
Ah, qui est super, ça
J'étais sur la fin, là.
Ok.
Ok, bon. C'est un chanteur, guitariste de blues, rhythm and blues et de rock américain.
Chuck Berry ?
Non. En 56...
Il est mort il y a pas longtemps, lui.
Pardon. Bobby Womack.
Mais je me rappelle plus... En 1956, il rencontre une jeune chanteuse âgée de 16 ans, et donc je tairai le nom, originaire du Tennessee.
C'est pas Bobby Womack ?
Non. Sa performance sur I Know You Love Me, Baby, une chanson de B.B. King, l'impressionne au point qu'il décide d'inclure donc cette jeune chanteuse comme choriste de son groupe. Ils forment ensuite ensemble un duo.
Ike et Tina Turner ?
Et ?
Donc c'est Ike Turner ?
Ike Turner ! Poupou !
Nice.
Alors, Ike Turner, pas ouf comme personnage.
Non, il faut cancel Ike Turner.
Il est un peu cancel. Il est mort. Sachez qu'il est mort à 76 ans d'une overdose de cocaïne.
Ouais, non, c'est pas étonnant.
Et je me dis, mais comment tu en arrives à 76 ans
avec de la cocaïne
encore à faire ça?
Oui.
Tu vois, c'est stop. Enfin, je sais pas. Regarde Inspecteur Barnaby comme tout le monde.
Derek.
Enfin voilà. Bon, et j'hésitais à le mettre, mais je me suis dit bon, voilà.
Cancel.
Mais par contre voilà, Tina Turner, grande chanteuse, ouais. Grande ouais. Chanteuse. Et donc.